Paul Nizan, Aden Arabi. J'avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme. L'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le monde. À quoi ressemblait notre monde? Il avait l'air du chaos que les Grecs mettaient à l'origine de l'univers, dans les nuées de la fabrication. Seulement, on croyait y voir le commencement de la fin, de la vraie fin, et non de celle qui est le commencement d'un commencement. Devant des transformations épuisantes, dont un nombre infini de témoins s'efforçait de découvrir la clé, on pouvait simplement apercevoir que la confusion conduisait à la belle mort de ce qui existait. Tout ressemblait au désordre qui conclut les maladies. Avant la mort qui se charge de rendre tous les corps invisibles, l'unité de la chair se dissipe. Chaque partie dans cette multiplication tire dans son sens. Cela finit par la pourriture, qui ne comporte pas de résurrection. Très peu d'hommes se sentaient alors assez clairvoyants pour débrouiller les forces déjà à l'œuvre derrière les grands débris pourrissants. On ne savait rien de ce qu'il eût fallu savoir. La culture était trop compliquée pour permettre de comprendre autre chose que les rides de la surface. Elle se consumait en subtilité dans un monde rangé de raisons, et presque tous ces professionnels étaient incapables d'épeler les textes qu'ils commentaient. L'erreur est toujours moins simple que le vrai. On avait besoin d'ABC composé de ce qu'il y avait réellement d'important. Mais au lieu d'apprendre à lire, ce qu'un tourment sincère empêchait quelquefois de dormir, imaginait des conclusions qui reposaient toutes sur l'étude des décadences comparées. Conclusions par l'invasion des barbares, le triomphe des machines, les visions à Patmos, les recours à Genève et à Dieu. Comme tout le monde était intelligent. Mais ces malins avaient la vue trop basse pour regarder par-dessus leurs lunettes plus loin que les naufrages. Et les jeunes gens avaient confiance en eux. Condamnation sans appel, sentence impérative. Vous allez mourir. Les gens de mon âge, empêchés de reprendre haleine, oppressés comme des victimes à qui on maintient la tête sous l'eau, se demandaient s'il restait de l'air quelque part. Il fallait pourtant les envoyer rejoindre, entre deux eaux, leur famille de noyés. Comme l'on me classait parmi les intellectuels, je n'avais jamais rencontré d'autres êtres que des techniciens sans ressources. Des ingénieurs, des avocats, des caristes, des professeurs. Je ne peux même plus me souvenir de cette pauvreté. Des hasards scolaires, des conseils prudents m'avaient porté vers l'école normale, et cet exercice officiel qu'on appelle encore philosophie. L'une et l'autre m'inspirèrent bientôt tout le dégoût dont j'étais déjà capable. Si l'on me demande pourquoi je restais là, c'était par paresse, incertitude, ignorance des métiers, et parce que l'État me nourrissait, me logeait, me prêtait gratuitement des livres et m'accordait 100 francs par mois. L'école normale est une institution que les nations envient à la République. Elle est une des têtes de la France, qui est pourvue de chefs, comme une hydre. On y dresse une partie de cette troupe orgueilleuse de magiciens que ceux qui paient pour la former nomment l'élite, et qui a pour mission de maintenir le peuple dans le chemin de la complaisance et du respect. Vertus qui sont le bien. Il y règne l'esprit de corps, des séminaires et des régiments. On arrive aisément à faire croire à de jeunes gens que leur faiblesse privée incline à l'orgueil collectif. Que l'école normale est un être réel, qui a une âme, et une belle âme. Une personne morale plus aimable que la vérité, la justice et les hommes. Dans ce lieu habité par des entités transparentes, comme le jardin de la rose, hypocrisie est reine. la plupart des Normaliens portent sur eux-mêmes les seuls jugements qui affirment leur participation à l'élite. Élite chrétienne. Beaucoup d'entre eux aiment la messe. Élite universitaire. On en voit qui préparent, comme un grand voyage, les étapes d'une belle carrière, et projettent à 20 ans des mariages avec les filles de célèbres professeurs. Le bulletin de l'école normale publie d'orgueilleuses, irrisibles généalogies. Élite politique. Plusieurs nagent dans les eaux sales des sections socialistes, des ligues radicales, avec une habileté de vieux poisson. Mais toujours élite de l'esprit. Ces pensées ambitieuses limitent la plupart des méditations sur la valeur des hommes. On propose là à des adolescents fatigués par des années de lycée, corrompus par les humanités, par la morale et la cuisine bourgeoise de leur famille, l'exemple de prédécesseurs illustres. Pasteur, Taine, Lemaître, Giraudoux, François Poncet. On leur promet la croix à leur tour de bête et l'institue à la fin de leur jour. Mais personne ne leur raconte la vie d'Évariste Galois. En 1924, il y avait encore un homme. C'était Lucien Hare. Quand on voyait ce géant penché sur une colline de livres, ses yeux sans brouillard au pied d'un front bossué, d'une sévère falaise de pensée, lorsqu'on entendait sa voix, qui ne mentait jamais, énoncer des jugements qui ne voulaient que cette fin juste, rendre à chacun ce qui lui revient, on savait qu'il n'était pas périlleux de vivre dans cette demeure crasseuse. Mais il mourut. Il ne resta plus que l'école normale, objet comique et plus souvent odieux, présidée par un petit vieillard patriote, hypocrite et puissant, qui respectait les militaires. Pendant des années, j'ai entendu rue d'Ulm et dans les salles de la Sorbonne des hommes importants qui parlaient au nom de l'esprit. C'était de ces philosophes qui enseignent la sagesse dans des revues, écrivent des ouvrages de référence et de bonne raison. Ils entrent dans les corps savants, ils convoquent des congrès pour décider des progrès que l'esprit a faits dans une année et de ceux qu'il lui reste à faire. Ils ont des rubans à leur revers, comme de vieux gendarmes retraités. Ils inaugurent des plaques de marbre sur des maisons natales, sur des maisons mortuaires, à des carrefours hollandais. Ces commémorations leur font voir du pays. Ils vivent presque tous dans les quartiers de l'ouest de Paris. À Passy, à Auteuil, à Boulogne. Quartier tranquille, peu de bruit, peu d'hommes. Les filles n'y sont pas réglées avec un an de retard. Ce sont les sages du 16e arrondissement. Cependant, ils présentent des idées bien dressées, des théories aux dents limées sur la psychologie, sur la morale, le progrès. Ces abstractions montraient déjà la corde au temps de Jules Simon ou de Victor Cousin. Elles font encore bon usage. Ils sont bons hommes. Ils disent que la vérité s'attrape au vol, comme un oiseau naïf. Ils lancent des messages sur la paix et la guerre, sur l'avenir de la démocratie, sur la justice et la création de Dieu, sur la relativité, la sérénité et la vie spirituelle. Ils composent des vocabulaires parce qu'ils ont découvert tous ensemble une proposition importante. Les problèmes n'existeront plus quand les termes en seront convenablement définis. Alors, ils tomberont en poussière. Ni vu ni connu, les poser sera les résoudre. Les philosophes seront simplement les chiens de garde du vocabulaire et les historiens de ce Moyen-Âge où les mots avaient plusieurs sens. En attendant, ils apprennent à mettre de côté les pensées dangereuses pour le jour où leurs poissons seront évaporés. La raison a le temps. Elle les retrouvera à son heure, qui ne coïncide pas avec l'heure des hommes. Ils font ainsi de la philosophie, qui demande en somme assez de propreté et de soin pour qu'il soit honorable d'y consacrer des vies soustraites à la comptabilité et à la société de Jésus. Et quel langage! Ils montrent tant de bons tours, de proverbes, de figures que je ne sais même plus si, à force de silence instruit par les déclarations secrètes du sommeil, d'entretien avec les passants attardés sur les places, dans les casernes, les débits, les usines, je retrouverai le sens des paroles droites et des simples inventions des hommes. Parmi eux, un grand penseur. Léon Brunschwick. Cachant mieux son jeu, avec plus d'as dans ses manchettes, une précision d'horloger des pensées, une adresse relevant de l'art de l'illusionniste faisant d'abord croire à un philosophe, mais on ne trouvait à la fin qu'un Robert Houdin, qu'on pouvait mesurer, de qui on pouvait compter les mensonges. Ce petit revendeur de sophismes avait un physique de vieux maître d'hôtel autorisé sur le tard à porter ventre et bas. La ruse sortait du coin de ses yeux, guidait dans l'espace gris les courts mouvements de ses mains doucereuses de marchand juif. Lançant avec des clins d'œil des bons mots, comme les décrets de la raison, suggérant à chaque discours « Laissez-moi faire, tout va s'arranger. Je répare tout dans les âmes et dans les sciences. » Puis, saluant au parterre. Quel appétit caché de place, de repos et d'honneur! Quelle terreur sincère de la vérité qui menace, de celle qui aurait pu, par exemple, attenter à l'argent de cet homme riche! Les disciples rangés autour de lui se tenaient prêts à relever au-dessus de son cadavre le drapeau mercenaire de l'idéalisme critique. Cependant, des hommes travaillaient à la chaîne. Cependant, des policiers marchaient dans les rues. Des hommes mouraient en Chine de morts violentes, dans la haute Volta. Le travail forcé abattait les Noirs comme une épidémie. Ainsi faisait-on ce qu'on pouvait pour nous cacher l'existence charnelle de nos frères, afin que nous fussions vraiment armés pour les tâches de curé auxquelles nous étions destinés. La bourgeoisie gave ses intellectuels dans des murs pour qu'ils ne soient pas tentés d'aimer le monde. Ainsi vivions-nous à la pauvre vitesse du sommeil. Chacun sait que ce sont les grandes vitesses qui coûtent cher. Nous tournions comme on nous avait appris à tourner, occupés à de petits jeux de construction enseignés par tous ces fonctionnaires. Il y avait un peu partout des gens dans les campagnes et les banlieues. Mais nous, regardions pour faire comme eux, nos maîtres et nos pères, tristement accroupis dans les coins, se relevant parfois pour faire rire leur patron, leur livrer une commande d'illusion, d'argument ou de justification. Bouffons, complices, métier de l'esprit. De temps en temps, il priait qu'on fût patient. Le monde allait prochainement être sauvé. Chapitre 2. Figurez-vous. Nous voilà lâchés à 20 ans, dans un monde inflexible, muni de quelques arts d'agrément. Le grec, la logique. Un vocabulaire étendu qui ne nous donne même pas l'illusion d'y voir clair. Nous sommes perdus dans la galerie de machines de nos pères, où tous les coins mal éclairés dissimulent les rencontres sanglantes. Guerres aux colonies, terreurs blanches aux Balkans, assassinats américains applaudis par toutes les mains françaises. La terrible hypocrisie des hommes au pouvoir n'arrive pas à voiler la présence des malheurs que nous ne comprenons pas. Nous savons seulement qu'ils sont là, qu'il arrive des malheurs quelque part. Ne nous dites pas que c'est pour notre bien. Ne vous contentez pas d'accuser le destin, de faire éternellement le geste de Pilate. Chacun trouve, au fond de ses réveils, tous les désordres du temps je ne sais combien de fois réduits à la médiocre échelle d'une inquiétude privée. Il y a en nous des divisions, des aliénations, des guerres et des palabres. On peut nous dire que c'est l'époque de la conscience malheureuse. Cela ne nous empêche pas de craindre pour notre peau, de souffrir des mutilations qui nous attendent. Après tout, nous savent comment vivent nos parents. Maladroitement malheureux, comme les chats qui ont la fièvre, les chèvres qui souffrent du mal de mer. Où était placé notre mal? Dans quelle partie de notre vie? Voici ce que nous savons. Les hommes ne vivent pas comme un homme devrait vivre. Mais nous ignorons encore les éléments qui composent cette vie véritable. Toutes nos pensées sont négatives. Le fameux Alain nous dit bien, penser, c'est dire non. Mais seul l'esprit du mal nie éternellement. Le temps arrivera où l'esprit ne redoutera plus ses propres adhésions. L'homme rougira alors de s'être si longtemps borné à la défensive. Nous ne sommes pas satisfaits d'avance des métiers auxquels on nous dresse avec promesse de maigres salaires. Nous avons peur de ce qui va nous arriver. La belle jeunesse. Comment demander des secours à des hommes? Où sont-ils cachés? Tout nous écarte d'eux. Le devoir, la famille, la patrie, le respect, l'argent. C'est trop d'ennemis pour notre force. Je sais aujourd'hui que ce sont des fantômes, des reflets 10 000 fois tordus que nous prenions au sérieux à cause de nos bonnes intentions. Mais j'y ai mis le temps. Voici. Nous allons entrer dans une prison dont nous n'arrivons pas à imaginer dans tous ses détails le régime. Quel jeune homme, pensant à une prison, devine ce qui se passe dans chaque cellule? Ce n'est pas à 20 ans qu'on sait mettre la main sur les choses particulières, sur les événements singuliers. Mais nous en pressentons assez pour étouffer. Nous ne sommes pas malades d'illusions. Des diminutions et des contraintes réelles menacent, et nous ne savons pas les dénombrer. En vain vouliez-vous nous faire croire au conflit candide de la liberté et du déterminisme, de la prédestination et de la grâce, de la maturité et de la puberté. S'il ne s'agit que de ces mots, nous ne sommes pas plus bêtes que vous. Nous saurions faire des thèses ou prêcher dans les chairs. Il y a des réalités déchirantes derrière vos sentences. Mais nous sommes faibles. L'impuissance est en nous. Nous sommes dressés à l'esclavage docile depuis notre enfance confortable. Nul moyen de dépister en nous les sources de l'espoir. Nous ne sommes pas sourciers. Nul moyen de comprendre que nous souffrons du désœuvrement de nos besoins humains. Nos maîtres paraissent inébranlables. Les machines qui laminent toutes les existences trop bien jointes pour être brisées. Mais si nous ne faisons rien, le chômage va durer toute la vie. Que nous arrivera-t-il? Que ne nous arrivera-t-il pas? Il est dur d'être une boussole affolée par un orage ou une aurore boréale, tournant vers les points cardinaux, dans une ombre traversée de sonneries, de feux, de cris, où la folie fait la belle et montre au coin des rues son visage avenant. Notre enfance y est bien pour quelque chose. Les édredons de plumes de la vie provinciale, nos premières communions, les glycines de l'été 14 ne nous ont pas préparés à l'apparition de la guerre. La mort de nos cousins et de nos frères, la licence donnée par l'absence de nos pères, les objets meurtriers de nos aînés ont fourni au désordre de mystérieux aliments. C'était celui de l'enfance miraculeuse, soustraite au complot pacifique de l'ordre. La guerre nous a permis de vivre. Pas d'autre contrainte que l'obligation de se découvrir devant les morts et les drapeaux. Dans les nuits de raid, enflammées par les bombes, les sirènes, les hurlements de chiens dans les caves, les incendies, les enfants s'amusaient. Tranquillité des parents. Comptant sur les misères du temps pour former des cœurs héroïques et l'amour de la vertu, les professeurs et les mères ont pris peu de soin pour nous habituer aux valeurs morales qui coulèrent à plein bord entre 14 et 18. Ils ont pensé qu'elles iraient de soi, dans l'air civique et guerrier qu'on respirait dans les préfectures les plus lointaines du Midi. Grâce à une erreur si grossière, à l'âge viril, nous ignorons bien des drames. Mais on se met trop tard à nous enfoncer dans la tête les lois comme des réclames sur la vérole. Comment y comprendre? nous n'y voyons que des chaînes effrayantes pour un homme, des chaînes qui nous entaillent la vie. Être un homme nous paraît la seule entreprise légitime. Nous sommes désespérés en découvrant que tant de beaux devoirs auxquels il fallait nous faire croire 10 ans plus tôt ne laissent rien debout dans l'amour de la vie. Aimer la vie qu'ils nous font. Assembler des familles provinciales, des prospectus, des examens, des jeunes filles bien élevées, des basses figures d'officiers instructeurs, des putains accoudés sur de faux marbres, des avenues noires, des leçons à 30 francs l'heure et la table qu'ancienne des jugements. Vous êtes des hommes. Voilà de quoi combler votre jeunesse. Ces journées des dupes se déroulent dans la fausse lumière de foire nationale du lendemain de la guerre. Elles ont commencé avec le matin de l'armistice, la seule fête des rues que j'ai vue. Une grande expiration tenue des années au fond des poumons, des désirs de sexe et de boisson, le droit naturel d'allumer toutes les lampes qu'on voulait, d'insulter les anciens ennemis, le jour enfin où j'embrassais boulevard Montmartre devant la boucherie en gros du matin, la première bouche de ma vie. Les combattants vidés de toute leur guerre entretiennent cette flamme aussi fidèlement que le gaz imbécile sous l'arc de triomphe. Éclatant de l'orgueil insolent d'avoir été forcés au sacrifice, ils exploitent devant nous les morts nationaux. Dans ces cadavres glorieux, tout est bon pour une sinistre charcuterie qui débite publiquement tous les morceaux des morts. Ils vivent selon l'ordre militaire qu'ils rêvent de maintenir dans une nation déréglée, entourés des ennemis qu'ils lui inventent tous les jours. Tous les cœurs sont imprégnés par eux d'une sale odeur de combat, de bivouac et de permission de détente. Derrière ce déballage d'idéal patriotique, qui séduit quelques adolescents de bonne famille, s'organise l'industrie française et la petite guerre civile contre les ouvriers qui ne mangent pas les morts. Nous pensons encore faiblement à ces vérités sévères, mais ces gens-là sont déjà pour nous les défenseurs bruyants de la loi, les prophètes de nos devoirs. Rien ne nous concerne dans ces fables. Nous cherchons quelque chose de réel à nous mettre sous la dent. Ils nous arracheraient le pain de la bouche. La faim et la faiblesse corrompent nos paroles et nos premières actions. Les livres qu'on nous donne, on les écrit dans des allées de cimetière. Les partis nous font des propositions en plein jour. Les messages que nous lançons nous retombent sur le nez. Faisons quelque chose. Mais quoi ? Ce que font les esclaves désœuvrés. On se divertit. On boit en bande. Nuit consolatrice. On entre dans des cinémas. Il y a au moins la chaleur animale, les femmes dont on touche les genoux et qu'on accompagne. Dans ces cuves sonores, pleines d'éclairs blancs, les hommes vont s'oublier. Ils sortent hébétés par les songes et vont se perdre dans les cubes où se déroule ce que Bergson ose encore appeler la vie, avec ce robinet éternel dans un coin. Nous faisons comme les hommes. Nous connaissons encore des femmes. Je vais en retrouver une qui tient un des tristes petits bars de la rue Saint-Jacques. Son mari, séché par les vents de l'Argentine, circule entre Paris et Londres, absorbé par des trafics que les codes commerciaux ne définissent pas. À ses retours, il enfonce des flèches tricolores dans une cible de paille. Cette jeune femme purifiée des alluvions de sa ville natale n'est qu'un corps ennuyé, sur les frontières d'un désert. Mais ses genoux écartés, les ciseaux noirs et blancs de ses cuisses suffisent provisoirement à l'amour de la liberté, dans ces années où une bouche humide peut seule nous sortir de nos habitudes. Je me perds avec elle dans un pays sans contour fermé par les grands pans verticaux de la nuit. Tout cela dure des mois et des mois. On veut nous faire croire que c'est la croissance, mais nous savons qu'il n'y a pas de raison pour que cette vie finisse, puisque tous les hommes vivent comme nous, tournant comme des chauves-souris. Comme nous ignorons nos compagnons de révolte dans le fond des campagnes et des eaux en cours, nous ne pensons qu'à fuir. Eux restent là, plus durement esclaves, parce que leur servitude est aussi celle du corps, la fatigue des reins, le manque de viande et d'air. Mais nous, du fond de notre bourgeoisie, comment deviner que les fondements de notre peur et de notre esclavage sont dans les usines, les banques, les casernes, les commissariats de police, tout ce qui est pays étranger, Chacun veut assurer son évasion par ses propres moyens.
Il y avait des quantités d'échappatoires. Que de portes pour n'aller nulle part. Les uns allaient demander à Dieu et à ses prêtres de les recevoir et de leur expliquer ce qui n'allait pas. Ils s'occupaient à apprendre Notre Père aux enfants dans les patronages. Ils étaient vite au chaud, prenant l'humiliation pour la prière, la ruine de l'homme pour sa sainteté. Cela permettait aux plus intelligents de se livrer à une certaine sorte de poésie. Dieu continuait son vieux métier, en se laissant accommoder à toutes les recettes. Naissance de bon Dieu, apparition de saints, gagnées à des poètes qui auraient bien voulu qu'on les prît pour des jongleurs de Notre-Dame. Immense pureté, refuge, indulgence. Des poètes ouvraient des bureaux de conversion. Rimbaud était tiré malgré ses derniers défenseurs du côté de la sacristie de Saint-Sulpice. Les curés, pour être salués par la jeunesse, expliquaient que la prière et la poésie sont les faces d'un acte unique. Ce Janus Brifon laissait place à toutes les déclarations sur la pureté et l'impureté de la poésie, sur l'inspiration, la conversion et l'inversion. D'autres flambés jusqu'à la peau par les lumières de Paris s'habituaient à mourir dans des trous, assiégés par les images femelles qui s'étaient terrées un peu partout au sortir de la guerre. Jean de Loisir, il vivait dans un état horrible de fausse naïveté, encore nommé poésie, simplement enfoncé dans le mal dont il n'essayait pas de regarder les raisons. Alors renaissait le phénix, appelé romantisme. On allait porter l'objet littéraire à la température d'un dieu, docile à la fréquente communion. Mal du siècle confortable comme le spiritisme, dernier asile où crever en paix, dans l'odeur de renfermer des châteaux abandonnés par les grands-pères. Mais ce sérieux d'enfant malade arrive-t-il à faire crouler les murs percés de meurtrières, par où des quantités d'yeux les regardent, ces murs le long desquels ils n'arrivent pas à grimper? Après tout, voilà d'autres bouffons, des bourgeois tourmentés par le retour d'âge et les avertissements que chaque jour leur apporte de leur déclin. Toute cette réalité poétique aide les industriels français, les académiciens, les policiers, les séminaristes, les socialistes français à empêcher de mourir leur classe bien-aimée. Espérons pour le dernier honneur de l'homme que ces poètes ne se doutaient de rien. Il y avait d'autres portes qui menaient vers les grands hommes. On se baignait dans leur vie, on trempait dans leur gloire comme dans le cinéma, comme dans un carême à Notre-Dame. Ils étaient à la mode. On se mettait dans leur peau en s'endormant. On se mettait à genoux dans leur chapelle expiatoire, si calme, où l'on ne pense pas aux cours de la bourse, aux grèves, aux assassinats, aux armées, aux mariages convenables, aux devoirs conjugaux. Saint Thomas ramassait des disciples au sang pauvre, dans les familles bien élevées, autour de Sainte-Croix de Neuilly et de l'Institut catholique. De même Kant, Pascal, Descartes, Louis XIV. Il y avait l'ironie, si convenable comme un notaire. Elle était au moins conforme au passé de la France. Elle était patriotique. La pudeur, vertu de ces petits Français. Elle n'effraie personne. Elle n'est pas si négative qu'elle en a l'air. Elle n'interdit pas de faire des carrières applaudies jusque dans le quartier Malesherbes. On peut arriver sous cette étiquette de sceptique si honorable depuis Montaigne et Huet. Reste la fuite réelle. Cela arrivait. Les faits divers annonçaient quelquefois des suicides. Alors, des jeunes gens d'une correction américaine organisaient des enquêtes. Le suicide est-il une solution? Quelques-uns, ayant frappé à toutes ces portes, voyaient fondre les raisons glacées qu'ils avaient malgré tout de rester à la tâche. Faisant appel à des souvenirs de lecture et aux jeux collectifs de l'enfance, il pensait tout d'un coup qu'on voyage. Dans ces années molles où le dégoût, où l'impatience d'être des hommes montait dans tous les corps comme des accès de fièvre, une force centrifuge irrésistible attirait les hommes les moins pesants de l'Europe, loin de ce nombril de la terre qu'était peut-être Paris. Ils volaient du côté où les dernières chances paraissait accroché à la rose des vents. Le prétexte des aventures garantissait la confiance qu'il ne pouvait s'empêcher, malgré tout, de conserver à la vie. L'aventure était l'attention merveilleuse qu'il portait à leur avenir. Il y avait une grande part de naïveté dans ces entreprises qui avaient rarement une signification commerciale. Mais cette naïveté a des excuses. Des écrivains, des philosophes promettaient merveilles des voyages. C'était un mot où pendaient bien des ornements littéraires et moraux. Les souillures de la morale gâtaient tout. Pas de voyage en Europe. Nous en étions venus à regarder cette mince bande de territoire, ce surjon de l'Asie, comme un bloc, comme la masse de notre pays natal. On parlait d'elle comme d'un être unique, voué au malheur d'un unique destin. Il y avait notre patrie, l'Europe, et nous. C'était d'elle qu'il était important de nous débarrasser. Et ailleurs reposaient les autres continents, chargés des forces, des vertus, des sagesses absentes de notre province. Tout valait mieux qu'elle, et qu'elle tout entière. Et en effet, l'ombre des cartels allemands, des milices fascistes, des textiles anglais, des bourreaux roumains, des socialistes polonais, était aussi noire et froide que celle du comité des forges et des usines de Saint-Gobain. Mais nous n'en savions rien. Nous pensions vie intérieure quand il fallait penser dividendes. Saisissez que nous étions en proie aux vagues des passions, que nous étions emportés dans un tourbillon d'apparence sentimentale. Notre éducation avait été assez mal faite, assez artificiellement conçue, pour nous permettre de penser sans rire à la justice, au bien, au mal. Nous vivions dans le ciel, après tout. Mais toutes nos forces nous tiraient du côté de la terre. Franchissons donc les limites de cette presqu'île limitée par des mers et les poteaux frontières de la Russie. Condamnons cette taupinière avec ses tas de scories, les crassiers de ses vieilles mines. Les professeurs eux-mêmes, complices patients des poètes, parlaient de son déclin. Les philosophes décrivaient la décadence de l'Occident. Comment savoir que la décadence véritable du monde était manifestée partout, dans les fabriques américaines, dans les guerres coloniales, les comptoirs africains. Comment savoir que tout pouvait recommencer un jour, que tout recommençait dans les assemblées soviétiques, dans les mouvements ouvriers, les soulèvements qui redressaient la vieille Asie paralytique. Notre conclusion était vide, parce que l'on nous avait accoutumés à penser à l'Orient comme au contraire de l'Occident. Alors, du moment que la chute et la pourriture de l'Europe étaient des faits absolument simples et clairs et distincts, la renaissance et la floraison de l'Orient n'appartenaient pas moins à l'ordre des évidences. Il renfermait le salut et la nouvelle vie des Européens. Il avait des remèdes et de l'amour de reste. On usait un peu partout avec imprudence des analogies antiques et de l'histoire officielle de religion. On ornait l'Asie de toutes les vertus humaines que l'Occident achevait de perdre depuis tantôt 300 ans et ne réclamait plus que dans la colonne d'agonie des quotidiens anglais. L'esprit de la civilisation planait sur l'Inde. La Chine nous semblait plus merveilleuse qu'à Marco Polo. Qui donc nous aurait révélé de bonnes raisons brutales, de bonnes raisons humaines de nous intéresser à l'Asie? Les grèves à Bombay, les révolutions et les massacres en Chine, les emprisonnements au Tonkin, et non Bouddha. Il y avait aussi l'Amérique. L'Europe, avec son maigre compte de terre, sa pauvreté d'hommes et de pétrole, sa misère d'événements, paraissait une vieille femme agonisante entre deux héros. L'Asie, héros de la sagesse, l'Amérique, héros de la puissance. L'Afrique, l'Océanie, n'étaient encore que des réservoirs débordants de poésie, que n'utilisaient guère que des marchands de curiosités et des poètes à l'inspiration desséchée. Tout cela marquait simplement la paresse et l'impuissance des gens d'Europe à faire quelque chose pour eux-mêmes. Les autres continents fournissaient quelques-uns des mondes imaginaires que tous les hommes inventaient dans la nuit pour oublier les vérités de leur purgatoire et décorer d'illusions leur indigence et leur écrasement.
Chapitre 4. Que contenait encore le nom du voyage? Qu'y avait-il dans cette boîte de Pandore? La liberté, le désintéressement, l'aventure, la plénitude, tout ce qui faisait défaut à tant de malheureux, et n'était possédé qu'en rêve, comme les femmes par les adolescents catholiques. Il contenait la paix, la joie, l'approbation du monde, le contentement de soi-même. On faisait un sort à des exemples devenus vénérables. Stevenson, Gauguin, Rimbaud, Rupert Brooke. Beaucoup d'écrivains étaient employés dans la diplomatie, et le nombre et la vitesse des trains internationaux, le développement des lignes de navigation, mettaient le déplacement à la portée de tous. Les Parisiens, sédentaires comme des moules, se sentaient émus par les affaires du PLM, par les sifflets des trains sous le pont de l'Europe, comme les courtisans de Louis XVI par un bêlement de mouton et un tableau de Watteau. Ils pensaient à des voyages comme les habitants du XVIIIe siècle étaient malades du désir de la campagne, des archipels bienheureux, et allaient à Hermont-Neuville lire les écrits champêtres de Rousseau. Nous possédons une tradition rarement interrompue de l'espace géographique. Favorisée par les expéditions maritimes, et que le développement républicain de l'instruction gratuite et obligatoire a contribué à rendre populaire. Tous les instituteurs encouragent l'amour des pays étrangers. Cette tradition est aussi répandue que l'utilisation du suffrage universel. Elle remonte aussi loin qu'au début de la Renaissance. C'était un temps où les gens commençaient à en avoir assez, où ils étaient passionnés par des histoires de paradis terrestres perdus et retrouvés, par des anecdotes morales sur les bons sauvages. Ils en croyaient Christine de Pisan racontant du fond de son Moyen-Âge. « Je fus au pays de Braquine, où les gens sont bons par nature, et ne font péché y, né les durs. » Christophe Colomb aperçoit sur l'Atlantique, avant même d'arriver dans sa fausse Amérique, les présages du monde des merveilles. Il débarque aux îles. Voici, en attendant les massacres, le vrai lieu de la vie humaine partout corrompu. On décrit pendant des siècles des voyages imaginaires, comme Platon décrit les îles des bienheureux. On se croit autorisé à placer le paradis terrestre quelque part dans le monde. C'est une contrée qui a longitude et latitude. La route en est perdue, mais une exploration heureuse peut faire retrouver ses coordonnées. Béatitude et joie relèvent de la géographie. Cela continue au XVIIIe siècle. En attendant la Révolution, les utopies sont voyageuses. Nous en sommes là, des garçons de 14 ans, étouffés par la vertu de la famille, dégoûtés des tétières aux crochets sur les fauteuils, des ronds de sparterie sous les semelles, fracturent les tiroirs ordonnés de leurs parents. Des bourgeois mécanisés par l'existence ont leur digestion troublée par le nom des îles sous le vent et des îles paradis, par l'astrolabe et la zélée. On en trouve d'assez candides pour partir vers les îles d'Océanie, vers le centre africain. Les intellectuels ne sont pas plus malins que les enfants et les bijoutiers. Seulement la terre connue, arpentée, cadastrée, les gens d'Europe l'ont mise en coupe. On est partout volé comme dans un bois. Les paradis sont des entreprises commerciales de cobalt, d'arachide, de caoutchouc, de copra. Les sauvages vertueux sont des clients et des esclaves. Les curés de tous les dieux blancs se sont mis à convertir ces idolâtres, ces fétichistes, à leur parler de Luther et de la Vierge de Lourdes, à leur révéler les culottes de chez Eders. Avec l'Eucharistie arrive le travail forcé du Brazzaville océan. Ainsi sont réduits au silence ceux-là même de qui nos pères attendaient des secrets. Tout va bien. La prière et l'absinthe entrent dans le jeu. La courbe des valeurs coloniales monte dans les bourses civilisées. Ceux qui abordent, en dépit de tous les mauvais signes à Tahiti et aux Marquises, y trouvent des missionnaires, si bons pour les lépreux, de grandes filles molles syphilitiques, des trafiquants grecs aux dents cariées, des sous-officiers alcooliques, qui rêvèrent pour leur retraite
d'être policier à Saigon. Reste à conjuguer au futur les dernières utopies, à les enfoncer dans le brillant avenir du temps, à inventer pour la consolation des populations urbaines les uchronies de la vie intérieure. Mais parlons aux hommes des actions présentes qui sont ici et en ce temps, et mettons-les en train. Ainsi, il y avait dans ce temps cruel dont je parle des hommes qui voulaient vraiment fuir les niches où les fixaient des chaînes de causes auxquelles ils ne comprenaient presque rien. Ils le voulaient sans hypocrisie, sans docilité à des mots d'ordre littéraire. Ils n'étaient pas tous des intellectuels adonnés aux délices de leur raisonnement abstrait, ni des amateurs oisifs qui aiment les paquebots des croisières ruineuses, ni des commerçants anonymes. Ces fuites étaient naturelles comme des crimes, des mariages, des suicides, qui sont en tel et tel nombre dans un pays. Les pouvoirs connaissaient assez bien ces désirs pour les utiliser aux fins. Les plus brutales de leur activité. Le recrutement des marins et des militaires de carrière, la paix sanglante de leur expérience coloniale. Les affiches de racolage à la porte des gendarmeries, des casernes, des mairies, les articles du temps colonial exploitaient avec une ruse grossière le désir que des paysans, des ouvriers, des employés pouvaient avoir d'échapper à leur vieille peau. Elles promettaient avec la certitude de la nourriture et du lit les plaisirs des tropiques, la facilité des femmes de couleur, séduisaient les cœurs par des artifices enfantins qu'inspirait une connaissance élémentaire, mais efficace, des tentations humaines. Comme tout le monde, ces voyageurs avaient vécu de ces années où on est mené par des puissances méthodiques, où on ne comprend goutte à ses passions, à ses mouvements, à ses mots, au travail, à l'amour. Tout est commandement militaire, règlement sur la discipline. Comme tout le monde, victime de diables qui ne laissent pas de marge aux plus simples vagabondages humains. Des voix qui les amollissaient au milieu de leurs tâches, comme le vent du mois de mars, leur ordonnaient d'aller à la rencontre des événements, de les mettre au défi de toujours échapper. Les événements ne viennent pas à domicile. Les événements ne sont pas un service public, comme le gaz et l'eau. Mais il y a des routes, des ports, des gares, d'autres pays que le chenil quotidien. Il suffit un jour de ne pas descendre à sa station de métro. Ils savaient cela avec une précision plus ou moins éclairée. Ils étaient tous de la même bande honteuse qui connaît son état de disette quand elle sort de son travail éternel. À quel jeu employer si tard dans la journée la vacance insolite des mains, la liberté provisoire de la promenade des prisonniers? Où sont les femmes? Où sont les amis introuvables, ces choses aussi simples que l'eau et que le pain? Alors ils partaient vers des accidents obscurs, que personne n'y prévoyait. Plus merveilleux que des comètes, en l'an 1000, et qui feraient d'eux des hommes. Tout ce qu'ils voyaient bien étaient les manques de leur vie, leur agitation d'ombre en proie à d'horribles humiliations. Alors ils partaient vers des accidents obscurs, que personne ne prévoyait. Plus merveilleux que des comètes en l'an 1000, et qui feraient d'eux des hommes. Tout ce qu'ils voyaient bien étaient les manques de leur vie, leur agitation d'ombre en proie à d'horribles humiliations. Il était temps pour eux. Il allait être trop tard d'avoir des yeux capables de voir le monde, de mettre la main sur un animal charnel, sur des objets à trois dimensions, de vivre soudain une telle journée, qu'ils seraient assurés que la vie en général n'est pas le songe irrémédiable de leurs anciens désirs. Ils se dirigeaient à tâtons vers une découverte et une invention substantielle, comme celle de la Sainte Croix, qu'ils ne désiraient même pas clairement, parce qu'ils s'étaient toujours endormis, éveillés dans une ombre si noire que leur désir n'était pas nommé, comme un couteau, comme un chien, comme Dieu. J'attends parmi eux. Nous sommes des émigrants. Je ne juge pas. Toute la méthode pour bien penser est aux orties. Je tremble d'inquiétude. La porte s'ouvre. On parle autour de moi du départ. On me fait des recommandations. Je respire dans un vertige que je devrais trouver agréable. On me dit adieu. Je file comme un mort. Chapitre 5. Je me trouve un matin dans la lumière rougeâtre du mois d'octobre, sur le pont d'un petit cargo neuf qui lève l'ancre dans un dock de la Clyde à Paisley. Le soleil au-dessus de la gelée blanche ressemble à l'étendard du Japon. Dans les champs, les meules sont glacées, les tiges d'herbe sont probablement cassantes comme du verre fêlé. La mer d'Irlande descendue, l'île du lundi doublée, l'Europe tombe dans le sillage comme une bouée. Entre Swansea et le Cap Saint-Vincent, la mine coupe les eaux de l'Atlantique dans les coups de vent et les grains de la saison. Derrière les vitres de la chambre des cartes, on voit les paquets de mer éclater contre la roue du gouvernail. Le corps de l'homme de quart, ils font sonner la cloche de timonerie. Au centre des froids humides de la mer, les mouettes, soustraites au vent, planent au-dessus du pont, pendues à des fils invisibles. La nuit, les mâles battent les parois de la cabine, la vaisselle accrochée au plafond de l'office perd une tasse, une assiette. Les couchettes craquent. Dans un mouvement monotone, les promontoires de l'Espagne et du Maroc, les hauts lieux, la ruche guerrière de Gibraltar, Ceuta, Cadix, Algésiras, le mont Ida apparaissent comme des avertissements. On les suit des yeux jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'une ligne de fumée plate sur l'horizon. On les commente longtemps à la table vernie du carré. Dans les eaux de Malte rôdent des croiseurs britanniques. Les coups de canon des écoles à feu ouvrent de profondes cavernes dans le grand silence architectural du ciel. Entre Malte et la Crète, un matin, une file de sous-marins glisse en surface, comme une bande de marsouins fatigués de faire la roue. L'Europe se rappelle aux voyageurs par les symboles les plus révoltants de son destin. Port Saïd passé, avec ses femmes à vendre, ses garçons à acheter, ces juifs syriens, ces eaux jaunes, les paquebots couleurs d'abeilles de la péninsular et de la British India, grouillant de coulis de charbon, le bateau perd de vue le dôme de verre de la compagnie du canal, traîne jusqu'à Suez entre les sables, voit le Sinaï, tombe en mer rouge. Le thermomètre monte chaque jour, les soleils tournent, les jours, les nuits, finissent par se fondre au sein d'une lumière terne et éclatante qui aveugle tous les yeux. L'Armin longe parfois des falaises rouges et jaunes, coupées de rares accidents. Les repères blancs d'un tombeau de saint homme, d'une maison écroulée. On se croirait dans la planète Mars. Ce sont les limites marines du désert. Les poissons volants filent sous l'étrave comme des grenouilles. À l'approche de certaines côtes, volent dans la mâture des oiseaux singuliers. Les péninsules s'étalent sur l'eau comme des mains, et on voit dans le lointain les hautes épines dorsales de ces morts. La mer est bombée comme une tortue. Ses volutes se défont et respirent avec un bruit de vapeur évadée. La mer a des mouvements d'animaux engelés. Elle gonfle, étire, rétracte, souffle, un protoplasme vitrifié. Elle ne ressemble pas à une femme capricieuse, mais à la plus primitive des bêtes. Des palmiers bas sur pattes comme des bassets, des grues métalliques, des toits rouges apparaissent un matin. Cette apparition est l'escale de Port-Soudan. Le long des quais, des bandes de requins se retournent maladroitement sur le dos et quête de la nourriture, comme des ours. Éblouis le soir par le feu du projecteur, ils dansent des ballets de guêpes. Ils ressemblent à tous les autres animaux. Les employés des douanes britanniques montent la garde entre les parois de longs couloirs bordés de caisses d'essence, à l'orée desquelles on aperçoit des rideaux de paille blanche et rouge. Un ciel noir habité par des nébuleuses taurides, des vautours et des lampes à arc. On essaye de descendre à terre. Les forçats, avec leurs gros boulets à la cheville, empierrent les rues, arrosent des arbres de 50 centimètres. Des Soudanais vendent des porte-cigarettes en ivoire, des colliers pour les femmes, des fouets de cuir. Quand on a bu sur des tables de tôle, on rentre pour ne plus voir les fonctionnaires jouer au bridge, sous les vérandas de leur maison, des femmes à leur côté. Alors, il est impossible de soutenir le poids des airs aigres doux de bagpipe que joue à longueur de soirée l'opérateur du sans-fil. Il tente d'attirer pour ses compagnons de chaîne des fantômes écossais capables de peupler le creux des mers tropicales. Je ne suis pas là pour des séances de spiritisme. Accroupis à l'arrière, les lascars de l'équipage parlent à voix basse, à toute vitesse, tard dans la nuit. Les ailes du ventilateur, ce hanneton, chassent comme des feuilles les cartes du mort étalées sur la table. Des mains humides de sueur les ramassent, parmi les brins de raffia, les taches d'huile, l'urine des moutons débarqués. On repart au milieu de la grande rue marine de la mer Rouge, loin de cette lourde escale où l'on fut déjà envahi par l'état tropical. L'état tropical, une fureur inépuisable et parfois un grand dérèglement sexuel. 3-4 navires par jour suffisent à peupler cette route déserte. Le matin du 34e jour, une pyramide violette qui monte la garde se hisse sur le dos de l'océan Indien. Elle augmente de minute en minute, comme les plantes que les fakirs font pousser rien qu'en les regardant. Jeu de pavillon. Le pilote et le docteur arrivent. Les machines marchent au ralenti. On découvre des maisons qui prennent peu à peu la taille des terriers où habitent les hommes. Une ville à l'ombre de rochers étalés. L'ancre tombe. Une fumée de sable s'épanouit dans la mer. 12°45 de latitude nord, 45°4 de longitude est. C'est Aden. Je suis arrivée. Il n'y a pas de quoi être fier.